Il est 8h sur France Culture. Et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Europe et le Canada ont cru un peu trop rapidement à la signature de leur traité de libre-échange. C'était sans compter le coup de boutoir de la Wallonie. Nous irons en Belgique dans un instant.
Direction ensuite la bataille de Mossoul. Notre envoyé spécial a recueilli le témoignage d'un habitant de la ville qui a fui les combats et les djihadistes de Daesh.
L'évacuation de la jungle de Calais, ses conséquences jusqu'à Paris. Des migrants ont quitté le bidonville avant pour échapper à l'opération. On les retrouve notamment en nombre sous le métro Stalingrad.
La rupture est-elle consommée entre les syndicats de police et la base? L'appel au rassemblement devant les tribunaux sera un test aujourd'hui.
Et quand les malades de longue durée en sont de leur poche, on appelle ces frais indirects les restes à charge, parfois trop chers au point de renoncer aux soins. Irréductible Wallonie, la petite région francophone belge est en train de devenir le symbole de la résistance au libre-échange et à la loi des multinationales. Son Parlement a posé son veto à la signature du CETA, l'accord de partenariat entre l'Europe et le Canada. Et malgré les ultimatums et les pressions, il ne vacille pas. C'est un reportage à Bruxelles de Laxmi Lota.
Nous ne sommes pas en état de signer le CETA, a déclaré le Premier ministre hier, comme celui qui annonce une maladie, une faiblesse qui aurait frappé son pays. Le dirigeant de la région flamande, Gert Bourgeois, va plus loin. Pour lui, la Belgique est la risée du monde entier. Mais pour le président du Parlement de la Wallonie, c'est au contraire une fierté. Sa région montre l'exemple à l'Europe. André Antoine.
Quand c'est une action démocrate, il n'y a jamais de risée. Quand la démarche est transparente, il ne peut pas y avoir de risée. Nous ne voulons pas éblouir l'Europe, nous voulons simplement l'éclairer et leur dire quels sont les dangers que recèlent de pareils traités et voir comment nous pouvons tous ensemble les améliorer. Ça, c'est donner de l'ambition à l'Europe. C'est une Europe qui s'interpose devant les multinationales. C'est une Europe qui invente un nouveau droit, un droit sur lequel chacun, Canadien ou Européen, peut se reposer à l'avenir.
La complexité du système fédéral belge permet à la Wallonie de bloquer le processus de signature. La Flandre, plus prospère, accepte le traité, tandis que la Wallonie refuse pour l'instant. Pour le dirigeant de la Flandre, Gert Bourgeois, la fin du CETA serait une catastrophe pour l'économie. Les échanges commerciaux de la Belgique avec Ottawa sont réalisés à 90% dans la riche région néerlandophone. Malgré ces divisions belgo-belges, l'UE ne perd pas espoir de signer le CETA ce jeudi.
Effectivement, le sommet prévu pour la signature à Bruxelles est maintenu. Pour l'instant, toujours possible, estiment l'Europe et le Canada. En Europe encore, le pouvoir polonais n'avait pas dit son dernier mot. Il souhaite toujours limiter l'accès à l'avortement dans le pays, même, je cite, quand l'enfant est condamné à mort, afin qu'il puisse être baptisé. Hier, des milliers de Polonaises ont de nouveau manifesté dans plusieurs villes du pays, comme au début du mois, vêtues de noir et portant des parapluies pour défendre l'accès à l'IVG. Elles ont notamment dénoncé l'ingérence de l'Église catholique dans la politique et le chantage qu'elle exerce sur les partis. L'actualité à l'étranger, c'est également la guerre en Irak, la bataille de Mossoul pour reprendre la deuxième ville du pays aux djihadistes de Daesh. Les combattants de l'UI résistent, une résistance qui pourrait s'accroître à mesure que les forces irakiennes se rapprochent. Philippe Randé, notre envoyé spécial sur le front, a rencontré Hassan, un habitant de Mossoul. Il a fui la ville, toujours tenue par Daesh, et lui a livré son témoignage.
Peut-on parler de choix quand il se résume entre attendre la mort et essayer de la fuir? Choix inhumain que celui de rester caché dans Mossoul en attendant les bombardements. Choix inhumain que celui de quitter Mossoul à travers cette gigantesque plaine poussiéreuse où chaque village est un terrain de combat. Et pourtant Hassan, que nous avons croisé au premier étage d'une mosquée, Hassan, ancien policier avec ses cheveux grisonnants, n'a pas envie de se plaindre ni d'être plaint. Il veut juste témoigner pour la première fois.
Pendant notre fuite, on était en voiture. On a profité du moment où les djihadistes étaient en train de se battre au sud de Mossoul. Il y avait deux voitures devant nous. La route était parsemée de mines. Ceux de devant ont explosé avec des enfants et des femmes. Et nous, on a réussi à passer. Puis on est arrivé à Gouer, où on a été récupérés par les Peshmerga. Ils nous ont très bien accueillis.
Pourquoi avez-vous décidé de partir à ce moment-là?
Parce qu'ils commencent à se servir de nous, les civils, comme protection. Les combattants de Daesh ont peur. Ils sentent que la population peut se retourner. Du coup, ils deviennent paranoïaques. Les conditions de vie empirent chaque matin. Il y a moins de nourriture, on n'a plus d'argent, on ne peut manger qu'une fois par jour, il n'y a plus d'école, plus rien. Et puis la population a aussi peur de l'armée qui va entrer. Car elle est majoritairement chiite et nous, sunnites. Mais en général, tout le monde n'a qu'une envie, que l'armée irakienne soit unie et chasse Daesh.
Est-ce que la population à l'intérieur de Mossoul résiste?
Les civils à Mossoul n'ont pas d'armes à la main. Sans armes, comment voulez-vous faire? On n'ose même plus sortir des maisons. Il y a des tentatives de résistance, parfois armées, mais très peu. Certains d'entre nous écrivent des phrases sur les murs des bâtiments de Daesh pour aider la coalition à les localiser et bombarder. Mais depuis, Daesh s'est rendu compte de tout ça. Et maintenant, il circule à moto, plus en voiture.
Entre 1 million et 1,5 million de civils sont toujours en ce moment piégés à Mossoul. Le commissariat aux réfugiés devrait disposer dans 2 ou 3 jours de 30 000 tentes en Irak, de quoi héberger 150 000 personnes.
Le reportage de Philippe Randé, l'envoyé spécial de France Culture à Mossoul avec Raymond Albouy au moyen technique. On l'entend, l'exode c'est souvent la solution pour survivre à ces guerres. Ainsi, le nouveau chef du Haut Commissariat aux réfugiés était hier en visite en Jordanie. Le royaume salué par Philippe Ograndi pour l'accueil fait aux exilés. Le patron du HR a également précisé 2 chiffres. Il y aurait 7 millions de Syriens déplacés à l'intérieur de leur pays et 5 millions de Syriens réfugiés dans toute la région de l'Irak à l'Égypte. Et la bataille de Mossoul, donc une ville d'1,5 million d'habitants, fait redouter un nouvel afflux majeur. On écoute Philippe Ograndi.
Pour vous donner une idée, le HCR va disposer de 30 000 tentes dans les 2 ou 3 jours en Irak. Cela permet d'abriter 150 000 personnes. 50 000 autres tentes sont aussi en cours de route. On a aussi des pistes pour d'autres types d'abris, pour ces personnes qui pourraient fuir Mossoul. Mais on n'en sait rien pour l'instant. Quand j'étais en Irak, le principal problème, c'était de trouver assez de lieux pour installer des camps d'accueil si on doit faire face à une vague importante de gens en fuite. Il ne faut pas oublier que l'Irak compte déjà 3 millions de déplacés, dont 1 million au Kurdistan irakien au nord. L'autre question, c'est comment la campagne militaire sera conduite. Les Irakiens et les Kurdes ont promis de mener leurs opérations tout en respectant les civils. Tout va donc dépendre de leur respect des civils.
Le chef du Haut Commissariat aux réfugiés, Philippe Ograndi, au micro d'Angélique Ferrat en Jordanie. On en vient logiquement à ceux qui veulent poursuivre la route plus loin, jusqu'en Europe, via la Méditerranée. Plus de 4000 migrants ont été secourus ces derniers jours au large de la Libye. Ils ont été emmenés en Italie. L'Italie où le nombre d'arrivées cette année dépasse les 153 000 enregistrés l'an dernier. Et si l'on prolonge encore la route, on arrive à Calais. La jungle, cette immense bidonville, est évacuée depuis hier. 2300 migrants ont déjà été emmenés dans des centres d'accueil un peu partout en France. Il en reste 4 à 6 000 à prendre en charge. Mais beaucoup n'ont pas attendu cette opération pour partir. On les retrouve en partie à Paris, dans un autre camp insalubre, sous le métro Stalingrad, dans le nord de la capitale. C'est un reportage de Pauline Lenoir.
Ils sont environ 1500 Soudanais, Afghans, Érythréens, massés sous des abris de fortune. Certains reviennent de l'enfer de Calais, comme Abdallah. Il est Soudanais. À 26 ans, il vient de passer 5 mois dans la jungle. Il a finalement pris un train, Terminus Paris.
La raison principale pour laquelle je voulais aller en Angleterre, c'est que j'ai un cousin là-bas et je parle un peu anglais. Mais j'ai dû renoncer à mes plans à cause des militaires et des policiers aux alentours de Calais. Je n'ai pas réussi à passer la frontière. J'ai eu très peur de me faire attraper et de me faire renvoyer dans mon pays. Maintenant, je n'ai plus aucune chance d'arriver en Angleterre. Comment voulez-vous que je fasse? Je dois rester ici, à Paris. Mais je sais que c'est difficile de faire une demande de droit d'asile en France.
Abdelkader est soudanais, lui aussi. Il a passé 1 mois à Calais, mais il a préféré rejoindre Paris avant le démantèlement de la jungle.
2 fois par semaine, des bus venaient chercher des gens pour les répartir dans d'autres villes. Parfois à Marseille, Nice ou Nancy. Mais ils ne faisaient monter qu'une dizaine de personnes. Je n'ai jamais pu en faire partie et je n'arrivais pas à déposer une demande d'asile à Calais. La vie dans le camp est devenue trop difficile, alors finalement j'ai décidé de venir à Paris.
Aubépine Dahan, du collectif parisien de soutien aux exilés, s'attend à voir arriver de nouveaux migrants de Calais dans les prochains jours.
Beaucoup de gens ne vont pas vouloir monter dans les bus parce que pour diverses raisons, ils n'ont pas envie de se retrouver dans un centre d'accueil et d'orientation. Je pense aussi qu'il faut s'attendre à ce que des personnes qui ont été amenées en centre d'accueil et d'orientation reviennent, puisque certains centres ne bénéficient d'aucun suivi, ne serait-ce qu'alimentaire. Bah, à ce moment-là, puisqu'ils ne pourront probablement pas revenir à Calais, ils reviendront à Paris.
Les associations redoutent une évacuation du camp de Stalingrad.
Le reportage de Pauline Renoir à Paris.
France Culture, 8h09, la suite du journal Amélie Perrier. Les syndicats de police tentent de reprendre la main.
Ça fait une semaine qu'ils sont exclus du mouvement de colère des policiers qui réclament davantage de moyens et la révision des règles de légitime défense. Aujourd'hui, les syndicats appellent à des rassemblements devant les tribunaux pour dénoncer le laxisme de la justice. Alors seront-ils suivis par la base? Les participants aux manifestations sauvages, Violette Voldoir, hésitent aujourd'hui.
Oui, puisque le mouvement des policiers qui dure depuis plus de 8 jours maintenant se veut asyndical et apolitique. En réalité, au sein de ces cortèges de policiers en civil, la plupart sont encartés. Pas très étonnant lorsque l'on sait que dans ce corps de métier, police nationale et municipale confondues, il y a près de 50% de taux de syndicalisation. La plupart sont chez Alliance et SGP Police Force Ouvrière, les deux principales centrales syndicales. Mais personne dans ces défilés nocturnes ne représente les intérêts de l'un ou de l'autre, dit-on. D'ailleurs, les discours des policiers frondeurs sont assez différents. Certains policiers se prononcent pour le rétablissement des peines planchers, d'autres non. Quant aux violences policières, notamment pendant les manifestations contre la loi travail, certains les reconnaissent et demandent plus de sanctions pour améliorer l'image de la profession. D'autres affirment qu'elles n'existent tout simplement pas. Des positionnements et des revendications éparses, mais un point commun néanmoins, ces manifestants se méfient tous de leur direction syndicale, qu'ils estiment corrompue et trop proche des hommes politiques. D'un autre côté, sans une représentativité solide à travers leurs syndicats, ils craignent de voir leur mouvement récupéré, voire discrédité. Jeudi dernier, l'un des porte-parole autoproclamés des policiers frondeurs lors du cortège parisien s'était avéré n'être plus un policier depuis plus de 4 ans.
Une facture très salée pour les malades en affection longue durée. C'est la conclusion d'une étude publiée ce matin par le magazine 60 millions de consommateurs. 11 millions de Français sont concernés et malgré la prise en charge par la Sécu à 100%, ce que l'on appelle les restes à charge, les frais indirects, sont parfois importants au point de renoncer pour certains à des soins, Viviane Le Guen.
Le cancer du sein, l'insuffisance rénale ou encore le diabète, en France, un assuré sur 6 souffre d'une affection de longue durée et des maladies prises en charge à 100% par la Sécurité sociale, officiellement du moins, car seuls les traitements directement liés à la pathologie sont remboursés. Gérard Raymond préside la Fédération française des diabétiques.
Par exemple, pour l'équilibre d'un diabète et la bonne santé de la personne, il faut qu'elle fasse attention à son alimentation, l'équilibre nutritionnel, l'activité physique, qu'elle surveille ses dents, qu'elle surveille ses pieds, et bien tout cela n'est pas pris en charge dans le cadre du panier de soins pris en charge en ALD.
Des soins indirects qui ont un coût jusqu'à 1700 euros par an pour les plus malades, selon Victoire Nsondé, qui a enquêté pour 60 millions de consommateurs.
Plus de 80% des frais sont pris en charge, mais à la fin de l'année, ces personnes-là, si elles prennent leur calculatrice, elles ont quand même des coûts. En moyenne, c'est autour de 750 euros par an. Nos chiffres montrent aussi que beaucoup de ces personnes-là renoncent encore plus que l'ensemble de la population aux soins dentaires, par exemple. Se faire mettre une couronne, c'est coûteux pour tout le monde. Mais quand on a une pathologie qui touche l'ensemble de l'organisme, on a souvent une dégradation des dents. Donc c'est un peu la double peine.
Souscrire une mutuelle reste le meilleur moyen de limiter les frais, selon le magazine qui propose quelques pistes pour alléger la facture. Ne pas hésiter à rencontrer plusieurs praticiens et demander des devis. Et surtout choisir des médecins qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires, puisque le 100% ne s'applique que sur les tarifs fixés par l'assurance maladie.
Cela ressemble à un geste de la direction, mais à y regarder de plus près, c'est une nouvelle gifle pour les journalistes d'ITélé. La direction a annoncé hier la suspension de l'émission de Jean-Marc Morandini, à l'origine de la colère des journalistes. Suspension jusqu'à la fin de la grève. Le mouvement a été reconduit par 85% des journalistes. Un gouffre sépare maintenant la rédaction du patron du groupe, Vincent Bolloré. Écoutez l'analyse du journaliste Raphaël Garrigo, s'il a publié un ouvrage sur l'Empire Bolloré.
Je pense qu'il ne croit pas au principe de la formation tout court. C'est-à-dire que Vincent Bolloré, il prend un journaliste de télévision comme un animateur de Canal+, ou de C8, une autre de ses chaînes. C'est-à-dire qu'il considère que ces gens-là sont là pour faire la promotion des produits maison. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'un journaliste d'ITélé aille faire la promotion des disques Universal qui appartient à Vivendi et donc à Vincent Bolloré, et qu'il aille promouvoir telle émission de Canal+. Ça marche pas comme ça, le journalisme. Il arrive à le faire avec Direct Matin, qui promeut ardemment les produits maison, les voitures, ces Autolib et d'autres produits de Canal+, par exemple. Ça marche pas comme ça avec une rédaction. Ce qui est intéressant avec Vincent Bolloré, c'est que finalement, avec Canal+, au-delà même du KITélé, il se retrouve pour la première fois confronté, si vous voulez, à des abonnés, à des téléspectateurs. Aujourd'hui, il vend des Autolib à des mairies, il fait des affaires portuaires. C'est la première fois qu'il se retrouve confronté avec des particuliers et il ne sait pas faire. Et l'information, il a déjà prouvé dans le passé à Direct avec Direct Matin, il a toujours eu des problèmes avec ça, oui. Et l'incompétence, il a coutume de dire qu'il préfère des gens fidèles plus que compétents. Donc voilà, et là il en fait la preuve, il a des gens vraiment très très fidèles autour de lui.
Raphaël Garrigos, le co-auteur avec Isabelle Roberts de l'ouvrage L'Empire, comment Vincent Bolloré a mangé Canal+, il répondait à Stanislas Vazak. On termine par le temps de ce mardi. Le soleil revient timidement par l'ouest, la pluie persiste sur le quart sud-est. Les minimales vont de 6 à 11 degrés au petit matin. Cet après-midi, on attend 13 degrés à Strasbourg, 15 à Dunkerque, 15 aussi à Paris, 16 degrés à Nantes, 18 à Lyon, 20 degrés à Bordeaux et 21 à Montpellier. Merci à Martin Descloseaux qui m'a aidé à préparer ce journal.